parler de la vie de Joseph. Ce jeune qui était malheureusement haï par ses frères. Et nous avons parcouru ce que le livre de la Genèse dit à son sujet. Et nous avons abordé la question de comment se préparer à de nouveaux défis. Et donc nous avons vu les différents défis que Joseph était amené à affronter et comment il les a affrontés. Nous avons vu ces différents défis, son esclavage en Égypte, alors qu'il a été donc vendu par ses frères, son emprisonnement suite au mensonge de la femme de Potiphar qui voulait qu'il couche avec elle. Et puis, autre défi qu'il a rencontré, c'est lorsqu'il a retrouvé ses frères qui sont venus en Égypte pour acheter de la nourriture. Et ce défi, c'était est-ce que Joseph allait vouloir se venger de ses frères et ou pardonner comme Dieu lui demande. Donc nous avons vu que Joseph a affronté tous ces défis, voulant et cherchant à honorer Dieu. Voilà, il a toujours voulu honorer Dieu dans sa vie, et face à tous ces défis, ça a été ça, je crois, sa pensée. Déjà, il a servi fidèlement son maître. Il était esclave et en faisant bien son travail, Dieu a béni la maison de Potiphar. Il a refusé aussi de coucher avec la femme de son maître car il ne voulait pas pécher contre Dieu. Il a mis au service des autres le don d'interprétation des songes que Dieu lui avait donné. Et à chaque fois, il expliquait que ce n'était pas lui, mais c'est Dieu qui donnait les explications. Et il est après devenu gouverneur de toute l'Égypte. Après avoir reconnu ses frères, il n'a pas cherché à se venger d'eux, mais il a tout fait pour les pousser à la repentance. Et donc, il les a mis à l'épreuve à plusieurs reprises. L'autre chose aussi que nous avons vu, c'est que, voyant la contrition de ses frères, il leur a révélé son identité. Joseph leur dit « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Et il décide de pardonner à ses frères tout le mal qu'ils lui ont fait, ayant aussi compris que si Dieu avait permis tout cela, c'était pour le salut de son peuple. C'était dans ce but-là, le salut de toute sa famille. Et dans ce texte de Genèse 45, versets 7 à 8, il dit à ses frères, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Voilà, il n'a pas cherché à se venger. Il a voulu surtout que les frères reconnaissent leur tort et se repentent. Et il les a pardonnés, mais le Seigneur lui a fait comprendre que voilà, tout ce qu'il a connu, ces choses difficiles, c'était dans un but, sauver toute sa famille, tout son peuple. Et puis, l'autre chose, c'est que après la mort de Jacob, les frères ont dit, tiens, bon, maintenant papa, il est mort, certainement Joseph va vouloir se venger. Et là encore, Joseph va rassurer ses frères et il va leur dire, dans Genèse chapitre 50, versets 18 à 21, où il est dit que ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et dire, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, car qui suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Vous savez, pour faire cela, il faut vraiment que le cœur ait été changé, transformé, pour pardonner à celui qui nous a fait du mal. Et Dieu avait déjà touché le cœur de Joseph, et il a été beaucoup éprouvé, mais le Seigneur, le texte dit que Dieu était avec lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cela en tête. Dieu, si je suis un enfant de Dieu, Dieu est avec moi, il ne m'abandonne pas, même si je suis dans la fournaise de l'épreuve. Alors, après la mort de Joseph, la Bible raconte dans le livre d'Exode l'histoire donc d'Israël, tous les descendants de Jacob, puisque Jacob et sa famille formaient un groupe de 70 personnes. Donc lorsque, du temps de Joseph, Jacob est descendu en Égypte, au départ c'est parce qu'il y avait la famine, et Joseph a voulu prendre soin de sa famille. Et donc Dieu a dit à Jacob, allez, vas-y. Et Joseph, il est mort à l'âge de 110 ans. Et dans Exode chapitre 1, il est dit que le nombre des Hébreux augmentait de plus en plus, au point que le pays fut rempli. Et le nombre important d'Hébreux a effrayé les Égyptiens qui eurent peur, il est dit, pour leur propre survie, pensant que les Hébreux allaient se retourner contre eux en cas de guerre. Donc voyant ces personnes qui prenaient de plus en plus de place, les Égyptiens ont eu peur, et il y avait un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph, et donc il a tout fait pour diminuer le nombre de ces Hébreux, et donc il a tout fait pour les tuer, les enfants, en demandant aux sages-femmes que si c'était des garçons de les tuer, mais les sages-femmes n'ont pas obéi à cela, et voyant que le nombre malgré tout continuait à augmenter, Pharaon a décidé d'augmenter la charge de travail des Hébreux, et au fur et à mesure ils étaient en esclavage dans ce pays. Et donc c'est dans ce contexte-là que Moïse va naître, au chapitre 2. Alors c'est l'histoire de Moïse, je crois que c'est l'une des histoires les plus connues de la Bible. Je pense que presque tout le monde a vu le film Les Dix Commandements. Mais voilà, c'est des histoires qu'on connaît bien. Alors Moïse, en Égypte, au chapitre 2, donc c'est des histoires que vous pouvez bien sûr relire, parce qu'on ne se lasse pas de les relire. Il y a toujours des instructions à en tirer. Et donc Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Donc il a grandi dans les palais, dans la luxure, et jusqu'à l'âge de 40 ans. Et lorsqu'il a su qu'il était donc hébreu, il a voulu prendre la défense d'un de ses frères, et il a voulu faire ça à sa manière. Il a tué un Égyptien, et lorsque Pharaon a su cela, Moïse a dû prendre la fuite, et parce qu'on voulait l'arrêter, on voulait le mettre à mort. Et donc il va partir jusqu'à Madian, et il va rencontrer donc cette famille, la famille de Jéthro, et il va trouver aussi une épouse dans ce pays, le pays de Madian. Alors dans Exode chapitre 2, j'aimerais que vous ouvriez la parole de Dieu avec moi. Exode chapitre 2, donc le peuple d'Israël est accablé de travaux pénibles à cause du fait qu'ils soient nombreux et de la peur des Égyptiens et la dureté de leur cœur. Regardez avec moi ce que dit le texte dans Exode chapitre 2, verset 23. Il est dit que longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc là, voyant donc la souffrance de son peuple, le Seigneur, le texte dit qu'il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et donc l'Éternel va décider d'agir à cause de sa grande compassion pour délivrer son peuple de la servitude. Et parce qu'il veut ramener dans le pays de Canaan, le peuple d'Israël, parce qu'il avait donc fait cette promesse à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 16, tu lui as dit, à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Donc Dieu, il avait dit à Abraham que son peuple allait être esclave. Et donc les choses se sont passées comme Dieu l'avait dit, mais Dieu avait promis aussi à Abraham qu'il va ramener son peuple à la quatrième génération. Alors la question c'est comment Dieu va-t-il donc ramener son peuple au pays de Canaan? Comment va-t-il accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham? Donc lorsqu'il lui disait que « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Donc Dieu avait déjà dit cela à Abraham. Comment donc va-t-il exécuter son plan, exécuter sa volonté? Alors, nous savons, c'est par Moïse que Dieu va le faire. Pour Moïse, ça sera un grand défi à relever. Est-ce qu'il va accepter ce défi, cette mission? Et aussi, comment va-t-il l'accomplir? Et le texte de Exode chapitre 3 que nous allons lire nous raconte un peu lorsque Dieu va appeler Moïse pour qu'il aille délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Donc Moïse, il va répondre à l'appel de Dieu, nous le savons, hein, pour relever ce défi. Donc faire sortir d'Égypte le peuple de Dieu. Et telle sera donc la mission que le Seigneur va lui confier. Et dans le texte que nous allons lire, il est dit que Dieu lui dit « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Nous allons voir que Moïse va répondre à cet appel pour plusieurs raisons. Déjà, à cause de celui qui l'a appelé, l'Éternel, à cause de la situation de son peuple, le peuple d'Israël qui est en esclavage, mais aussi malgré ses objections, malgré ses craintes, il va finir par répondre à l'appel de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, et que cela nous aide nous-mêmes face aux défis que nous avons, et voir qu'est-ce qui peut nous pousser, nous encourager à répondre aux défis que Dieu met là devant nous. Alors lisons ensemble ce texte d'Exode chapitre 3. Il est dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ?» Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ici que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Voilà, nous pouvons nous arrêter là pour la lecture de la parole. Alors, donc, Moïse va répondre à l'appel de Dieu et accomplir la mission que Dieu lui a proposée, lui a ordonnée. Déjà, la première des choses, c'est que j'aimerais voir, c'est que c'est à cause de celui qu'il a appelé, à cause de l'Éternel. Et dans ce chapitre 3, les versets 1 à 6, et chapitre... toujours au chapitre 3, versets 13 à 22, on voit que c'est l'ange de l'Éternel qui lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson pour attirer son attention. Et là, on voit vraiment que c'est l'ange de l'Éternel qui vient à sa rencontre. Et Moïse va être impressionné par ce buisson. Et il va chercher à se rapprocher pour comprendre ce qui se passe et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Et donc, voyant cela, l'Éternel va l'appeler par son nom. Moïse, Moïse. Et va lui demander d'ôter les souliers de ses pieds parce qu'il se trouve sur une terre sainte, puisque Dieu est présent. Et Moïse va se rendre compte qu'il est dans la présence de Dieu. Moïse se rend compte que celui qu'il a appelé est le Dieu qui le connaît personnellement. Dieu l'appelle par son nom. Moïse. Moïse. Et il voit que celui qui lui parle est le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu omniscient, qui le connaît intimement. Il sait tout de lui. Dieu sait tout de lui. Dieu sait, parce que nous le savons dans le chapitre précédent, en l'appelant par son nom Moïse, Dieu sait que cet homme qui est là, un jour, il a été sauvé des eaux. Dieu sait qu'il a été adopté par la fille de Pharaon. Dieu sait quelle adolescence qu'il a eue, quelle vie qu'il a eue. Dieu sait que ce Moïse a tué un Égyptien. C'est un meurtrier. Dieu sait qu'il a dû prendre la fuite puisqu'il voulait sauver sa vie. Il sait aussi que ce Moïse, lorsqu'il l'appelle Moïse, qu'il est là chez Jéthro, ce Madianite, qu'il a épousé sa fille, qu'il a deux enfants, et que là, ça fait 40 ans qu'il est avec ce Madianite et il garde son troupeau. Il est berger. Dieu sait tout ça de lui. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Et lorsque Dieu l'appelle Moïse, il ne s'est pas dit qui lui a dit son nom. Dieu le connaissait déjà. Moïse se rend compte que celui qu'il a appelé est aussi le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc en cela, il se rend compte que ce Dieu qu'il lui-même ne connaissait pas, parce qu'il a grandi avec les Égyptiens, mais lorsqu'il a su qu'il était hébreu, il avait certainement besoin de connaître déjà qui il est, quelle est son histoire, etc. Là, il découvre que le Dieu des Hébreux est un Dieu fidèle. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Abraham avait eu confiance en Dieu lorsque Dieu lui a demandé de quitter son pays, de quitter sa patrie et la maison de son père pour aller là où il lui demanderait d'aller. Abraham avait mis sa confiance en Dieu, en ce Dieu qui parle à Moïse. Et Dieu a dit à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation. Il a eu ce fils, l'héritier de la promesse, Isaac, alors que sa femme était stérile. Dieu est intervenu dans la vie, il a parlé à Abraham, Abraham a eu confiance et cela lui fut imputé à justice. Et Isaac aussi, à un moment de sa vie, a dû lui aussi mettre sa confiance dans le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham. Et pareil pour Jacob, qui a trompé son frère, qui lui a volé son droit d'aînesse. Et son frère Ésaü voulait le tuer. C'est terrible ces histoires de famille, où un frère veut tuer un frère. Abraham est parti, Jacob est parti. Sa mère lui a dit, va chez mon frère Laban. Et sur la route, il a eu des expériences et il a fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi, tu vas revenir dans ce pays. Et Jacob qui dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est très important. Dieu, il est le même, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. Maintenant, est-ce qu'il est le Dieu de Moïse? Dieu ne veut pas être... Il est Dieu, mais il veut être le Dieu personnel. Le Dieu en qui on met sa confiance. Pas parce que c'était, le Dieu de papa, mais je veux avoir une rencontre personnelle avec lui et mettre ma confiance en lui parce que j'ai vu comment il a été fidèle envers papa, envers grand-père, etc. Et Moïse avait besoin de faire cette rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu qui est venu à lui et se révéler à lui. Et donc, Dieu lui dit, voilà, Moïse, je te connais. Je sais qui tu es. Je sais quels sont tes péchés. Mais je peux te sauver, mais aussi j'ai un plan pour toi. Moïse se rend compte que celui qu'il a appelé est un Dieu qui se dévoile. Dieu dit à Moïse, au verset 13 à 15, lorsque Moïse lui dit, mais si je vais aller vers eux, ils vont me dire, mais quel est son nom, le nom de celui qui t'envoie? Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Et il dit, voilà, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu est un Dieu qui se dévoile. Il veut qu'on le connaisse pour ce qu'il est. Je suis celui qui suis. Le Dieu de ses pères est un Dieu qui ne change pas. Il est le même de génération en génération. Il existe par lui-même. Il est éternel. Et donc c'est un Dieu fiable, digne de confiance, qui fait ce qu'il dit. Il ne peut donc être comparé à aucun autre Dieu. Et c'est le même Dieu, frères et sœurs, que nous servons. Il n'a pas changé. Il est le Dieu tout-puissant auquel Pharaon ne pourra résister. Aucun dirigeant, aucun roi, qui que ce soit ne peut s'opposer à Dieu. Et lorsque nous voyons ce qui se passe dans notre monde, il ne faut pas penser que Dieu ne voit pas. Et là, nous voyons que Dieu voyait quelle était la situation de son peuple. Il voyait l'oppression des Égyptiens. Et il va intervenir. Il intervient toujours en son temps. Et donc, le Seigneur se révèle à lui. Il dit, voilà, je suis celui qui suis. Donc, il existe par lui-même. Il est l'Éternel. Alors, Moïse va répondre à l'appel de Dieu et accomplir l'œuvre que Dieu va lui demander, parce que il va prendre conscience aussi, peut-être qu'il l'avait oublié, parce qu'il était là en train de s'occuper de ses moutons. Il vivait sa vie loin de l'Égypte, donc tout ça c'était derrière lui. Mais Dieu va lui rappeler quelle est la situation de son peuple. Lorsque Moïse était encore en Égypte, il a cherché à d'une certaine façon, a apporté la délivrance à ce peuple lorsqu'il a cherché à sauver cet Hébreu qui était maltraité par l'Égyptien. Il a tué cet Égyptien. Donc, il a voulu combattre avec ses propres forces. Et ça a mené à rien. Et là, Dieu est en train de lui dire, je vais t'envoyer, mais ça sera avec ma force à moi. Ce sera moi qui va te conduire, c'est moi qui va t'accompagner et ça ne sera pas ma puissance que tu pourras délivrer ce peuple. Et donc Dieu, il rappelle à Moïse quelle est la situation de son peuple. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voilà, le Seigneur veut rappeler à Moïse que, c'est vrai, ça fait 40 ans que tu es là, tu as peut-être, toi, oublié la situation de ton peuple qui vit dans la misère, qui est esclave, mais moi, je ne les ai pas oubliés. Moi, je ne les ai pas oubliés. J'ai vu. Je vois ce qu'on leur fait. Et puis, je suis fidèle aussi à mes promesses. Il entendait leurs gémissements. Il voyait leurs souffrances. Ils entendaient les cris que leur faisaient pousser leurs oppresseurs. Et donc, pour délivrer son peuple, l'Éternel rappelle à Moïse la situation de son peuple, ses souffrances. Peut-être aussi pour sensibiliser son cœur par rapport à la situation catastrophique dans laquelle se trouve ce peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'il dit, il appelle Moïse et dit, voilà, j'ai besoin de toi pour cette mission. C'est toujours extraordinaire de dire, oui, j'ai besoin, bon, j'ai dit ça à ma manière, j'ai besoin de toi. Mais est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous? Il peut faire tout, voilà, comme ça. Et donc, c'est un grand honneur pour l'être humain d'être participant à l'œuvre de Dieu. De voir que ce Dieu Tout-Puissant veuille bien accepter de faire participer l'homme à son œuvre. Et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Est-ce qu'il a besoin de nous? En vérité, non. Mais sa grâce fait qu'il veut nous rendre participants dans son œuvre. Il voudrait aussi que nous soyons sensibles. Il sait combien nous avons un cœur dur et insensible par rapport à la situation, par rapport à la détresse des autres, qu'il nous dit, mais non, moi je vois, mais je voudrais aussi que toi tu vois. Que toi tu sois sensible par rapport à la situation du peuple. Regarde autour de toi, voilà ce qui commence. Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu es prêt à te lever? Est-ce que tu es prêt à agir? Moi, je peux le faire, mais je voudrais que toi aussi tu le fasses. Donc Dieu va sensibiliser son cœur par rapport aux besoins et la situation de son peuple. L'autre point, c'est que Moïse va répondre à l'appel de Dieu malgré ses objections et ses craintes. Au chapitre 3, versets 11 à 12, il dit, Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Vous savez, il est toujours difficile de laisser son confort, de laisser sa tranquillité pour aller et affronter un défi. Qui, de surcroît, peut paraître impossible à réaliser à vue humaine. Dieu lui dit, tu vas délivrer mon peuple d'Égypte. Il connaît très bien, il sait que Pharaon, que l'Égypte, c'est un grand pays puissant. Comment lui, il n'a rien, il a juste un bâton, comment il peut aller délivrer ce peuple-là? Moïse avait donc essayé, comme je le disais, de le faire par ses propres forces, et ce fut un échec. Maintenant, le Seigneur lui demande de retourner en Égypte pour délivrer son peuple de l'esclavage, et parce que Dieu, là, sera avec lui. Et là, ça change tout. Quand Dieu est avec nous, nous pouvons déplacer les montagnes. Mais là, il suffit, là aussi, il faut le croire. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une meilleure connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu s'est dévoilé à lui pour lui dire qui il est vraiment. Et plus nous allons grandir dans la connaissance de Dieu, plus nous serons conscients de la puissance de Dieu. Et Moïse, comme nous, nous aurions fait aussi, il va faire part à Dieu de toutes sortes d'objections pour lui dire, en fait, finalement, non, non, envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la bonne personne. Le casting, ce n'est pas moi. Tu te trompes, Dieu, ce n'est pas moi. Déjà, il se croit incompétent et incapable de délivrer le peuple. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il pense qu'il n'est pas qualifié. Il pense qu'il n'a pas les capacités pour accomplir la tâche que Dieu lui demande. Qui suis-je, Seigneur? Ça ne nous arrive pas de penser comme ça. Il pense que le peuple ne va pas accepter non plus son autorité, ne sachant pas, selon lui, qui est le Dieu de leur père. Donc, eux, est-ce qu'ils te connaissent, eux? Tu me dis d'aller, mais eux, est-ce qu'ils te connaissent? Oui, je suis le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils pensent même que les Hébreux ne croiront pas en sa capacité de les délivrer. Oui, c'est Dieu qui t'envoie, mais toi, comment toi tu pourrais le faire? Et au chapitre 4, Dieu va lui donner des signes pour lui montrer qu'à travers ces signes, ils vont reconnaître la puissance de Dieu à travers lui. Et dans le Nouveau Testament, pareil, les apôtres, ils vont accomplir des signes et des prodiges, voyant que ce qu'ils disaient était la parole de Dieu. Et donc, au chapitre 4, Dieu va demander à Moïse de jeter sa verge, qui va se transformer en serpent, après de le reprendre. Il va lui demander de mettre sa main dans son sein et qui va se transformer en... qui sera plein de lèpre. Et après, cette main va redevenir saine. Et donc, Dieu lui dit, voilà, tu pourras faire des choses. Ils vont voir que tu es capable et que Dieu est avec toi. Et après, au chapitre 4, il va dire, mais tu sais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, je suis quelqu'un, j'ai la langue embarrassée, je n'ai pas la parole facile. Moi, je ne pourrais pas parler à ces gens-là. Ouais, toutes sortes d'objections, toutes sortes d'excuses qu'il dit pour ne pas aller et accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Et donc, Dieu lui dit, au chapitre 4, verset 11, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et donc, Dieu a dit, voilà, prends Aaron, il va parler à ta place, il sera ton prophète. Moi, je te parlerai, et toi, tu vas lui parler, et puis lui, il va dire au peuple. Mais quand on connaît la suite, lorsqu'ils vont sortir du pays d'Égypte, Aaron, c'est lui qui va donner cette idée de faire ce veau d'or. Et parfois, Dieu nous appelle, on se sent incapable, et on dit, oui, j'ai choisi un autre. Mais est-ce que l'autre va faire le travail comme il faut? Et donc, Moïse va accepter finalement cette mission parce qu'il va se laisser convaincre. Il va se laisser convaincre par Dieu, qui lui donne l'assurance de sa présence. À plusieurs reprises, on voit que Dieu va, avec patience, va échanger avec Moïse, il va chercher à le rassurer. Je serai avec toi. Pour accomplir cette mission, tu ne seras pas seul, parce que moi, le Dieu Tout-Puissant, je serai avec toi. Et donc, si je te demande de faire ça, c'est parce que je sais que tu pourras aller au bout. Il dit, tu vas revenir sur cette montagne et tu vas adorer l'Éternel avec ce peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc moi, ce que je te demande, je sais que tu vas l'accomplir. Il lui dit, je serai avec toi, j'ai su prendre soin d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, j'ai été avec eux, eh bien je serai avec toi aussi. Et lorsqu'il fait accomplir ses prodiges, il lui montre qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qu'avec Dieu, il peut faire de grandes choses. Et il est constamment en train de le rassurer. Mais à un moment, quand on insiste, il y a la colère de Dieu qui s'enflamme. Et chacun doit s'interroger par rapport à cela. À quoi le Seigneur m'appelle ? Est-ce que je sers le Seigneur comme je dois le servir ? Est-ce comme Moïse, j'ai cette tendance à donner des raisons pour lesquelles je ne peux pas faire la chose auxquelles Dieu m'appelle ? Moïse donc va répondre à l'appel de Dieu. Il va retourner voir son beau-père, Jéthro, et il va lui dire, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Et Jéthro va lui dire, « Va en paix. » Il va donc se soumettre à la volonté de Dieu et après il va partir. Vous savez, comme Moïse, Dieu appelle ses disciples, ses enfants, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, à accomplir une tâche, à accomplir une mission qu'il a préparée d'avance pour chacun. Le texte de Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres sont les missions, les tâches, les services que Dieu nous appelle à accomplir en son nom et pour sa gloire. L'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse, et dans le texte on voit qu'après il est appelé l'Éternel, qui est Dieu, qui est celui qui est, je suis celui qui suis, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui a dit aux Juifs qu'avant qu'Abraham fût, je suis, dans Jean chapitre 8, verset 58. Et lorsqu'on étudie ces textes-là dans l'Ancien Testament, et Exode chapitre 3 dit clairement cela, mais pas seulement dans ce texte d'Exode, dans Genèse et après dans les Juges, l'ange de l'Éternel est présenté et on voit que c'est Jésus-Christ qui se manifeste avant son incarnation, mais qui se manifeste là, il se manifeste sous la forme d'un buisson ardent et qui se révèle à Moïse. L'ange de l'Éternel, donc qui est l'Éternel, celui qui a appelé Moïse à une tâche particulière, donc c'est le Seigneur Jésus, nous appelle aussi à accomplir une tâche qu'il a préparée d'avance pour nous. En Jean chapitre 15, verset 8, il est dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père soit glorifié et que vous serez mes disciples. » Et le Seigneur dit que « Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Et ce fruit, c'est l'accomplissement des œuvres, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Entre autres, l'apôtre Paul aussi a dit que le Seigneur Jésus, dans Tite chapitre 2, verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, donc l'Église, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans Tite chapitre 2, verset 14. Et il continue au chapitre 3, verset 8, il dit « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc nous savons bien que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais celui qui a la foi et qui est sauvé, il pratique les bonnes œuvres. Je veux que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres à pratiquer sont connues de Dieu, mais lorsqu'il nous les montre, sommes-nous prêts à les pratiquer ou préférons-nous objecter comme Moïse l'a fait, en disant à Dieu ou en nous disant nous-mêmes, je ne suis pas capable, je suis incapable, je suis incompétent, je ne saurais pas faire. Les autres ne vont pas m'accepter ou voir ou vouloir me suivre. J'ai tel ou tel défaut. Un autre ferait mieux que moi. Toutes ces excuses que nous pouvons trouver pour ne pas accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Dieu entend ces objections, comme il a entendu celles de Moïse. Et avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, il se dit aussi, et il te dit aussi, je serai avec toi, je ne vais pas t'abandonner. C'est ma puissance qui va s'accomplir en toi pour l'accomplissement de cette œuvre. Et c'est moi qui te donnera les capacités pour les accomplir. Après, c'est avons-nous foi en la parole de Dieu? Et ce qui va conditionner notre réponse, ce n'est qu'une chose, frères et sœurs. L'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour notre prochain. C'est ça qui va faire que nous allons répondre à l'appel de Dieu. L'amour. Et c'est pour ça que Dieu a sensibilisé, a rappelé à Moïse la situation de son peuple. Dans Matthieu chapitre 9, lisons ce texte. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Il est dit, alors je lis à partir du verset 35, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et après, il est dit au verset 1 du chapitre 10, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité, et il les envoie. » Le Seigneur a dit à ses mêmes disciples, après sa résurrection, il leur a dit, « Voilà, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc cette puissance, nous l'avons, si nous avons mis notre foi en lui. Jésus-Christ, il est descendu, il est apparu à Moïse, mais c'est lui aussi qui est venu, qui s'est fait homme. Et c'est lui qui a appelé aussi ses disciples et les donné cette mission de prier pour des ouvriers dans la moisson et d'être sensible par rapport à ce grand besoin. Donc soyons prêts, frères et sœurs, à répondre à l'appel de Dieu pour accomplir la tâche qu'il a prévue pour nous. Dans les Actes des Apôtres, il est parlé de Dorcas, cette femme qui a servi Dieu fidèlement, ou Tabitha. Elle faisait les bonnes œuvres, et ces bonnes œuvres, c'est qu'elle faisait des vêtements et des tuniques. Donc, lorsqu'elle est morte, on montre à Pierre toutes les choses qu'elle fabriquait. Voilà, juste les vêtements qu'elle faisait, et puis ça aidait les uns et les autres. J'assistais à un enterrement où on parlait de la sœur, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est des gâteaux. Elle faisait des gâteaux. Elle mettait ce don au service des autres. Lorsqu'il y avait des camps, elle allait au camp, elle servait dans la cuisine, etc. Et tout le monde était là parce que c'était une servante du Seigneur qui faisait des gâteaux. Voilà. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas voir, ah oui, Dieu m'appelle pour être missionnaire, partir pasteur ou autre. C'est dans les petites choses. Quel que soit le petit don, il n'y a pas de petit ou de grand, mais toi tu peux dire c'est un petit, mais quelle que soit la chose, des capacités que Dieu t'a données, si tu le dis, Seigneur, je le mets à ton service et je vais accomplir l'œuvre que tu m'as donnée à faire en faisant cela, alors Dieu sera glorifié. Et la vie dans l'Église, c'est ça. Est-ce que je suis prêt à mettre au service des autres le don que Dieu m'a donné? Donc souvenons-nous qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous connaît personnellement. Soyons sensibles, frères et sœurs, à la situation du peuple de Dieu, au niveau de l'Église locale, au niveau de l'Église, de manière générale, puisque la moisson est grande. Et ne laissons pas nos objections ou nos craintes être un frein qui nous empêche de servir notre Dieu. Mais soyons à l'écoute des paroles de soutien, de réconfort, d'encouragement que Dieu nous adresse pour que nous puissions accomplir sa volonté. Donc faisons comme Moïse, levons-nous et accomplissons l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés et prions aussi que le Maître puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen.